Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 23 avril 2022. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de l'élection présidentielle qui arrive demain en France, dans une émission spéciale d'Europa Voice. Et nous parlerons de cinéma avec ce film Happening. J'ai eu la chance de parler à la réalisatrice du film. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. En Australie, le Parti travailliste qui engagera 15 millions de dollars sur 3 ans pour des écoles de langue communautaire. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'Union européenne. Et en sport, en tennis, l'Australien Alex de Minaur se qualifie pour les demi-finales de l'Open de Barcelone. Et on débute avec l'élection fédérale en Australie et la campagne qui bat son plein. Le Parti travailliste a annoncé une politique visant à engager 15 millions de dollars sur 3 ans pour financer des cours de langue autres que l'anglais dans des écoles de langue communautaire. Le plan prévoit de donner à chaque école de langue communautaire, donc à travers le pays, une augmentation de financement de 30 000 dollars. Tania Plibersek, la porte-parole sur l'éducation, a déclaré à ABC News Breakfast qu'il existe actuellement 780 écoles de ce type en Australie. On l'écoute.
They're teaching about 100,000 kids. Most of them are learning a language that their parents or their grandparents spoke in the country of their origin. And it is a great opportunity to learn a second language. We know that that's good for all kids. We want to make sure that more kids can learn a second language and they can learn it from an earlier age.
Voilà, donc Tania Plibersek, la porte-parole de l'éducation pour le Parti travailliste. D'après le ministre des Finances, Josh Frydenberg, l'ancien Premier ministre John Howard se joindra à une partie de la campagne électorale du Parti libéral, tout en déclarant sur Channel 9 ce matin que John Howard était, je cite, « sur la même longueur d'onde concernant les politiques économiques de la coalition ». On écoute Josh Frydenberg.
Cost of living is a major issue. National security is a major issue. And he was very complimentary about the measures that we had in the budget, which we outlined as part of our broader economic plan just over 2 weeks ago. He supports the measures that we've got to increase investment by small business in their workforce, in technology. He supports what we're doing through the regions as the new frontiers of economic growth.
C'était Josh Frydenberg. On va passer maintenant à la campagne électorale en France. Elle est officiellement terminée depuis quelques heures. Elle fait place donc maintenant à la fameuse période de réflexion qui laisse donc aux Français le temps de réfléchir sur tout ce qui a été dit. Il n'y aura donc plus de sondages ou encore de mots des candidats ou de leur parti à partir de maintenant et ce jusqu'à 20h dimanche, heure de Paris. Vous pourrez voter un peu partout à travers l'Australie pour ce second tour de l'élection présidentielle. Renseignez-vous s'il n'est encore temps auprès de vos consulats respectifs. On a d'ailleurs commencé à voter dans certains endroits en France. Et oui, comme dans les prisons, 11 000 personnes avaient voté au premier tour. Donc dans les prisons, on écoute ce reportage de Nathanaël Blin pour RFI.
Vous prenez une petite enveloppe bleue, les deux bulletins des deux candidats.
Si on fait abstraction des gardiens et des lourdes portes à barreaux, le bureau de vote installé dans le gymnase de la prison ressemble à n'importe quel autre. Pour ce détenu qui préfère rester anonyme, c'est une toute première fois.
Ça fait 18 mois que je suis incarcéré. Avec ce temps-là, j'ai beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses. Quand j'ai vu qu'il y avait les élections, j'ai demandé si je pouvais m'inscrire sur les listes électorales.
Oui, tout va bien.
Il y a un circuit à faire, il y a un isoloir. Et puis à la fin, on met dans la petite boîte et on nous dit qu'on a voté.
À voter.
C'est comme si on était dehors, en fait.
Ce nouveau système de vote, un succès indéniable pour le directeur de la prison, Michael Mercy.
Au premier tour, ici, sur les 600 personnes qui étaient éligibles au vote, il y en avait 320 qui s'étaient inscrites. Il y en a 271 qui ont pu voter, soit 45% de taux de participation, ce qui est plutôt un très bon score. Et la grande majorité des personnes qui ont voté n'avaient jamais voté de leur vie.
Des détenus aux préoccupations similaires à celles de tous les Français.
Déjà, l'écologie, hein, parce que forcément, là, je vais bientôt avoir un enfant, donc c'est important quand on pense à l'avenir. L'économie, quand même, on sort d'une crise sanitaire.
Dans un établissement rempli, comme beaucoup d'autres, à 180% de sa capacité, où les détenus sont obligés de partager leurs cellules, certains, comme Enzo, ont quand même scruté les programmes.
C'est vrai, je me suis plus intéressé au débat quand tu parlais des prisonniers et sur l'incarcération.
Les bulletins seront envoyés au ministère de la Justice, où ils seront dépouillés dimanche de manière anonyme et intégrés à ceux du 1er arrondissement de Paris.
À voter!
Et c'était un reportage de Nathanaël Blin pour RFI. Si vous voulez en savoir plus sur les élections qui arrivent, donc notamment l'élection présidentielle en France et également la législative, ou les législatives plutôt, qui arrivent dans la foule, et également, eh bien, restez à l'écoute de ce programme. Nous en parlons un peu plus tard dans notre épisode d'Europa Voice pour ce samedi. À 13h06, direction l'Ukraine maintenant. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a remercié les États-Unis pour leur soutien militaire et financier lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'était à Washington. Il a également déclaré que l'Ukraine voulait rejoindre, et je cite, le monde civilisé de l'Union européenne. Et surtout, il a déclaré que la plupart des Ukrainiens veulent maintenant faire partie de l'Union européenne. On l'écoute.
The biggest quantity of our people, more than 96% of Ukrainians, strongly would like to be part of European family, part of civilized world, but not part of Soviet Union or Russian Empire.
Voilà donc le Premier ministre ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié ses alliés pour l'assistance militaire, affirmant que les armes sauveront des vies et des milliers de personnes. Il dit que cela montrera à la Russie que le jour, un jour ou l'autre, ils seront forcés de quitter l'Ukraine et que ce jour approche. Volodymyr Zelensky a également remercié le gouvernement britannique après que le Premier ministre Boris Johnson ait annoncé son intention de rouvrir son ambassade à Kiev la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'ambassade française à Kiev a, elle, été rouverte la semaine dernière. On écoute le président ukrainien.
I am grateful to our British friends for the important symbolic decision announced today to return the embassy to Kyiv. The United Kingdom became the 21st country to return the diplomatic mission to our capital, and this shows that we are not the only ones who believe in the victory of life over death.
13h08, retour en France maintenant, et la justice française qui vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien PDG du groupe automobile Renault. Le franco-libanais avait déjà fui la justice dans une évasion rocambolesque, c'était au Japon, depuis le Japon il y a 3 ans. Les explications, les retours sur cette affaire avec Alexis Bédu pour RFI.
La justice française s'intéresse à des paiements suspects d'un montant total de 15 millions d'euros entre l'alliance Renault-Nissan que dirigeait Carlos Ghosn à l'époque des faits et le distributeur du constructeur à Oman. Il y aurait des soupçons de rétrocommission en faveur de l'ancien PDG de Renault. Une enquête qui s'est élargie il y a quelques mois au chef de corruption. La justice soupçonne également Carlos Ghosn d'avoir tiré un bénéfice personnel d'une convention de mécénat entre Renault et l'établissement qui gère le château de Versailles en y organisant 2 soirées privées. Alors Carlos Ghosn vit toujours au Liban depuis sa fuite du Japon fin 2019. Il a déjà échappé à un procès à Tokyo pour malversation financière car le Liban n'extrade pas ses ressortissants. Il est hors de portée de la justice japonaise, mais qu'en sera-t-il de la justice française ? L'avocat de l'homme d'affaires s'étonne de ce mandat d'arrêt international, assurant que son client fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire libanais et qu'une extradition vers la France serait dès lors impossible. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a déclaré ce matin qu'il ne ferait aucun commentaire. Il appelle à laisser la justice faire son travail.
Et c'était Alexis Bédu pour RFI. Aux États-Unis, des militants de droits civiques exigent des autorités du Michigan qu'ils divulguent le nom du policier qui a tué Patrick Liolia, un jeune homme de 26 ans, originaire de la République démocratique du Congo. Monsieur Liolia a été mortellement touché à la tête par un officier à la suite d'un contrôle routier. C'était à Grand Rapids au début du mois, c'était exactement le 4 avril. Le révérend Al Sharpton a prononcé son éloge funèbre, donc c'était pendant ses obsèques, et a demandé que le nom de l'officier de police du Michigan soit nommé. On l'écoute.
Every time a young black man or woman is arrested in this town, you put their name all over the news. Wakati
yoyote wanafunga kijana hapa mwa inchi, mu Grand Rapide wanatiaka jina yake inje.
Every time we are suspected of something,
wakati yote wakitu suspecte na kitu yoyote,
you put our name out there.
Unatia jina yetu kule.
How dare you hold the name of a man that killed this man?
Voilà, éloge funèbre, hein, plutôt émouvante du révérend Al Sharpton. C'était dans le Michigan. L'ancien président du Kenya, Mwai Kibaki, est décédé à l'âge de 90 ans. L'actuel président du pays, Uhuru Kenyatta, a déclaré donc que l'ancien président restera à jamais dans les mémoires comme un gentleman de la politique kenyane, un brillant débatteur et celui qui a dirigé le développement du pays. Fin de citation. Monsieur Kibaki a servi deux mandats en tant que président du pays. C'était de 2002 à 2013. La gouverneure du comté de Kitui, Charity Ngui, dit que le ministre de cabinet sous son gouvernement, elle était ministre de cabinet sous son gouvernement, elle lui a rendu hommage. On l'écoute.
Late President Kibaki spearheaded this country out of terrible economic time of the 90s in ensuring that we got a real economic state of country where everybody.
Used to say that we are proud to be Kenyans.
We will miss him. We will miss his leadership. We will miss his guidance, his political strength.
Voilà, 13h12, on parle de sport maintenant. Le numéro 1 australien en tennis, Alex de Minaur, jouera les demi-finales de l'Open de Barcelone. Je vous le disais en titre, il a gagné deux matchs sur la terre battue espagnole. Le jeune homme de 23 ans, il est originaire de Sydney, a rabattu Lloyd Harris, le sud-africain. Et il a battu également Cameron Norrie en quart de finale sur le score de 6-3, 5-7, 6-1. L'Australien sera opposé à Carlos Alcaraz Garfia, la nouvelle coqueluche du public qui court pour l'instant numéro 11 mondial. Le match aura lieu dimanche. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth cet après-midi, il fera 27 degrés. À Adélaïde, vous aurez 23 degrés. Melbourne, 19. Également 19 à Hobart. Canberra, vous aurez 19 également. Sydney, 22 degrés. 25 degrés à Brisbane. Cairns, vous aurez 28 degrés. Et La Palme, comme à chaque fois qu'on présente cette émission, revient à Darwin avec 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Parti travailliste qui s'engage à donner 15 millions de dollars sur 3 ans pour les écoles pour apprendre les langues étrangères, autres donc que l'anglais. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmilal a déclaré que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'Union européenne. C'est un moment important et on vient de le voir. L'Australien Alex de Minaur qui se qualifie pour les demi-finales de l'Open de Barcelone. Il est 13h13, courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Et c'était Salomé Leclerc et cette chanson Partir Ensemble qui fait partie de notre sélection musicale. Je vous rappelle que tous les mois, nous faisons une sélection musicale sur Spotify. Simplement, il vous faut chercher SBS French et le mois et vous avez tout l'autre choix musical donc pour le mois. 13h17, et si on parlait de sport ? Journal des sports et on commence aujourd'hui avec du cyclisme et la fin du Tour des Alpes qui a eu lieu hier soir, fin en beauté pour les Français. Victoire du Français Thibaut Pinot, 1007 jours après sa dernière victoire, c'était sur le Tourmalet dans le Tour de France. 1007 jours donc jusqu'à ce moment où Thibaut Pinot a gagné donc son étape, la cinquième et dernière étape donc du Tour des Alpes. On écoute Thibaut Pinot tout de suite après cette victoire.
Ouais, quelle journée, je le savais depuis le départ que ça allait être une journée très dure. Donc voilà, ça l'a été. J'avais des très bonnes jambes aujourd'hui. J'aime beaucoup ces conditions. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important de gagner. Ma déception de hier était grande. Et voilà, j'avais tellement de frustration, de déception hier soir que depuis hier soir, je pensais vraiment qu'à cette étape. Ouais, c'est sûr. Après, c'est le genre d'étape où, avec la pluie, ça montait, ça descend, des descentes dangereuses. Il fallait vraiment être dans l'échappée, je pense, si je voulais gagner l'étape. Donc j'avais pas eu le choix de dès le départ être dans l'échappée. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé avec De La Cruz qui était très fort aussi. Donc on s'est très bien entendu les deux. Et voilà, je pense que ouais, le bateau sprint, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais. Ouais, beaucoup de joie et en fait la libération, je suis vraiment libéré de tout ça et pour moi c'est important de passer à autre chose maintenant et de gagner d'autres courses.
Thibaut Pinot donc après cette victoire dans la cinquième étape du Tour des Alpes qui est remporté par un autre Français, l'idole de beaucoup de jeunes petits Français, Romain Bardet remporte donc ce Tour des Alpes. C'est simplement sa deuxième victoire dans un Tour à étapes de toute sa carrière. Il avait remporté le Tour de l'Ain et donc maintenant le Tour des Alpes. On écoute Romain Bardet.
Ouais, une très belle semaine. C'est vrai que c'était ma reprise à la compétition et c'est très bien passé. Les sensations sont bonnes et quand il y a la victoire au bout, c'est magnifique. De toute façon, le plan, c'était d'essayer de faire la dernière ascension à fond et de voir les écarts en haut. Donc voilà, j'étais concentré sur ma course et essayer de faire la montée la plus rapide possible. C'est un point de passage important, mais le Giro est une autre course. On va voir comment je récupère et en tout cas, c'est plutôt bon signe quand ça se passe bien.
Voilà donc le Français Romain Bardet, vainqueur du Tour des Alpes donc. Et une autre surprise, mais qui n'est pas vraiment une surprise si vous connaissez un petit peu le cyclisme, eh bien l'Australien Michael Storer, qui est passé de l'équipe DSM, qui était donc coéquipier de Romain Bardet l'année dernière, à l'équipe de la Française des Jeux, coéquipier de Thibaut Pinot. Cette année, eh bien, cet Australien, Michael Storer, gardez bien un œil sur lui, il finit deuxième de ce Tour des Alpes. On écoute Michael Storer.
Yeah, it's incredible. Literally a perfect day for us. We couldn't have hoped for any more. On the final climb, that really reminded me of last year with Roman and Timon going full gas in Austria at the training camp. It's a bit of a flashback, racing each other again. But it was an amazing day. It's unbelievable to make second today. I wasn't sure how I'd go because there's so many guys, but who are really, really strong in this race. But that's amazing.
Michael Storer, donc deuxième du Tour des Alpes, un grand espoir du cyclisme australien. Allez, petit détour par le football pour conclure ce journal des sports et on parle du PSG qui est à un point de la victoire dans le championnat français, un point du titre qui se jouera ce soir à Lens. Et la question sur toutes les lèvres, c'est pas forcément la victoire dans cette Ligue 1, c'est le cas de Kylian Mbappé. On écoute l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.
Comme entraîneur, ça ne me perturbe pas. C'est quelque chose que ça se passe dans tous les clubs. Et ça ne sera ni la première ni la dernière fois que des situations comme ça vont se passer dans tous les clubs. Et aujourd'hui, comme entraîneur, on doit s'adapter à tout type de situation. Et ce type de situation contractuelle des joueurs, c'est quelque chose qu'on est habitué aussi à vivre au cours des années. Après, par rapport à que, égoïstement, oui, je voudrais avoir Kylian avec moi tout le temps, ici au club, l'amener en vacances avec moi, l'avoir à la maison. Et oui, c'est quelqu'un avec qui on aimerait toujours l'avoir. Et sûrement, comme on dit, les clubs, ils voudraient qu'il puisse rester très longtemps ici. Après, c'est une négociation où il y a plusieurs parties et sûrement la décision, les seront prise une fois l'objectif du championnat et du titre atteint et une fois la saison finie. Et ça sera le cas comme ici Kylian, comme aussi dans d'autres cas personnels, individuels qui font partie des gens qui sont partis au club.
Et pour les footballistes.
Voilà donc Mauricio Pochettino sur le cas du Français Kylian Mbappé. Restera pas au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Les arguments et les baisers.
Elle est pas belle.
Et c'était donc Julien Doré et Eddie De Preto et cette chanson Larme Fatale. 13h28, courte pause, et nous parlons de l'élection présidentielle qui arrive en France demain. Vous n'êtes pas sans le savoir. Décryptons un peu les enjeux dans la première partie de notre épisode d'Europa Voice avec Nathanaël Bloch, tout de suite après ça. Europa Voice numéro 95, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
95, et là, cette fois-ci, on va parler de l'élection présidentielle en France qui approche à grands pas. C'est ce dimanche l'élection présidentielle en France. Je vous rappelle que vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous pourrez voter. Renseignez-vous dans vos capitales, les villes respectives, pour savoir où se trouve le bureau de vote si vous n'êtes pas allé au premier tour. Mais bon, Nathanaël, qu'a-t-on à discuter aujourd'hui? Il y a eu un débat cette semaine, on attendait énormément de ce débat. Est-ce que ça n'a pas été un peu un pétard mouillé quand même?
On attendait énormément de ce débat, Christophe, parce que déjà c'est le premier en fait débat qu'Emmanuel Macron accorde dans cette campagne présidentielle. Il avait refusé de faire tous les débats avant le premier tour, ça c'est le premier élément, Christophe. Et puis le deuxième élément, c'est que c'est un peu le match retour de 2017, où on avait déjà eu un débat Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui avait tourné largement en faveur du président actuel. Et donc, Marine Le Pen, on pensait qu'elle allait être mieux préparée pour cette revanche face à Emmanuel Macron.
Alors, on peut dire qu'elle l'était quand même, parce qu'au final, ça n'a pas été une remontada hein, de Marine Le Pen, mais ça n'a surtout pas été une catastrophe, comme vous l'avez dit, ça a pu l'être lors du dernier débat il y a 5 ans. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a tenu son rang quand même au niveau du débat.
Ce qui est intéressant, Christophe, c'est qu'en fait, la différence avec il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, en fait, aucun des deux candidats n'avait de bilan. Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir, et puis Emmanuel Macron était candidat pour la première fois à l'élection présidentielle. Donc là, en fait, naturellement, on attendait que Marine Le Pen soit très offensive sur le bilan d'Emmanuel Macron, le critique, et prenne, d'une certaine façon, le lead sur les débats. Et en fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a aperçu, c'est que c'est plutôt Emmanuel Macron qui a opposé à Marine Le Pen les propres inexactitudes de son programme à elle, et qui l'a emmené à montrer bah, finalement des fois certaines incohérences de son programme encore une fois à elle. Et donc c'était très intéressant de voir cette stratégie-là opérée par Emmanuel Macron au risque de paraître arrogant et professoral, mais comme il l'avait dit, ça a été relayé dans le Canard enchaîné, il avait d'ailleurs dit à ses conseillers bah, « moi je m'en fous d'être professoral et arrogant ». Il me faut plutôt des arguments et une stratégie. Et donc, il semble que c'est ce qui a été décidé in fine. Et puis, voilà, Emmanuel Macron qui a attaqué Marine Le Pen, qui lui a montré ses incohérences et qui lui est clairement rentré dedans sur des sujets comme le hijab, la laïcité, ses liens avec la Russie et tant d'autres.
Alors justement, ce lien avec la Russie qui semble hanter quand même Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on peut en tirer justement des attaques d'Emmanuel Macron et de la défense de Marine Le Pen sur cette relation supposée avec la Russie?
Il y a deux éléments, Christophe, que je trouve assez intéressants dans cette séquence, appelons-la internationale russe. La première chose, c'est qu'en fait, c'est un des seuls sujets parmi la quinzaine de sujets qui a été développé tout au long de la soirée, c'est un des seuls sujets où Marine Le Pen a félicité en fait Emmanuel Macron sur les initiatives qu'il a prises pour le peuple ukrainien au nom de la France. Alors évidemment, elle a remis en cause les sanctions par rapport à la Russie en disant que c'est les premiers concernés, en tout cas que ça allait avoir des impacts négatifs sur la France, mais c'est un moment dans le débat où elle a reconnu les bonnes actions du président français. Ça, c'est le premier point. Après, ce qui était plus surprenant, c'est que elle savait en fait que Emmanuel Macron allait l'interroger sur cette question russe. Elle savait évidemment que c'était un terrain d'attaque facile pour Emmanuel Macron. Et moi, il m'a semblé, en toute objectivité, qu'en fait cette question-là, elle l'avait mal préparée, parce que effectivement, alors elle a reconnu les financements russes de sa campagne, elle l'a pas nié, mais elle a dit pour moi quelque chose d'extrêmement bizarre, en tout cas quelque chose qui ne fait pas du tout écho, en tout cas ne paraît pas extraordinairement bien construit quand elle a dit bien sûr il finance ma campagne mais je reste tout à fait indépendante. Enfin en tout cas c'est quelque chose, c'est un argument, on voit bien il est pas ficelé, et c'est assez surprenant de sa part qu'au lieu de prendre ça comme finalement un prétexte pour aller embrayer sur quelque chose d'autre, elle-même elle s'est un petit peu fourvoyée, et puis elle est rentrée dans le piège qui était tendu par Emmanuel Macron, bah finalement de qualifier les relations qu'elle a avec ses financeurs russes. Donc pour moi c'est ça qui était le plus bizarre, et c'était d'autant plus bizarre, Christophe, que en fait comme elle a des grandes ambitions de ressouder les liens avec la Russie, et ben finalement ça diminuait un petit peu cet argument-là, parce que d'un point de vue extérieur, c'est tout à fait audible qu'une puissance comme la France, ou qu'à l'intérieur du bloc européen, on puisse considérer qu'on a envie de considérer la Russie, ou comme on considérait la Chine, avec qui on doit avoir des relations, c'est un fait. Voilà, ces relations peuvent ne pas être extraordinaires, mais il faut avoir des relations. Donc, c'était un argument qui était audible, Christophe. Mais là où ça l'a rendu un peu moins audible, moins crédible, c'est qu'elle est rentrée encore une fois dans le piège d'Emmanuel Macron qui l'a tendu, en parlant du financement de ses campagnes et en parlant de sa dépendance aux banques russes, avec, je ne sais pas si ça restera, mais en tout cas, s'il fallait garder une des phrases de ce débat, la phrase sur les banquiers russes, c'est peut-être une des phrases choc de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes quand même qui étaient assez marquantes. Sur les autres sujets, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'on sait que le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui par rapport à cette élection qui arrive. Il y a l'écologie également. Quels ont été les autres sujets qui ont été abordés dans ce débat ? Et on reviendra un peu plus en avant. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être même un deuxième débat, parce que on n'a pas forcément pu approfondir dans pas mal de sujets quand même.
Non, c'est vrai, Christophe, peut-être pour revenir sur ce point-là, ça a duré 2h30, 3h, mais quand vous avez une quinzaine de débats, de sujets avec les invectives, avec les transitions des journalistes, etc., bah, c'est vrai que finalement, on a un temps assez réduit. Mettant ça de côté, effectivement, on a assisté pour moi à un véritable bras de fer sur le pouvoir d'achat. Ça a été débattu assez longtemps par les deux protagonistes. Ce qui était assez intéressant, c'est que là, pour le coup, Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur son bilan. Et encore une fois, Emmanuel Macron a joué de la même stratégie en montrant l'inopérabilité, l'inefficacité des propositions de Marine Le Pen. On a eu une phrase qui a, pour moi, pas fait tellement mouche de Marine Le Pen, très thatchérienne, quand elle a expliqué qu'elle voulait rendre leur argent aux Français, qu'elle voulait restituer leur argent aux Français. Mais finalement, c'est un... Ce qui est assez intéressant, c'est que les deux candidats avaient des positions totalement antagonistes, parce que pour Marine Le Pen, rappelons-le, c'est surtout une baisse pérenne de la fiscalité, par exemple la TVA sur l'énergie ou sur les produits de première nécessité, alors que pour Emmanuel Macron, on est plus dans des aides, des chèques énergie, les boucliers tarifaires, en tout cas des mesures provisoires que le gouvernement est déjà en train de mettre en place et qui veut pérenniser. Emmanuel Macron a eu un argument pour moi qui était assez crédible sur ce débat-là du pouvoir d'achat, c'est dire qu'en fait les propositions de baisse de la TVA, notamment par Marine Le Pen, bah finalement elle allait concerner un plus grand nombre de Français que nécessaire, et qu'il n'y a pas d'argent magique, hein, on va pas citer Gérard Majax, mais voilà, c'était un argument pour moi qui était assez recevable d'Emmanuel Macron, de dire bah finalement, il vaut mieux aider au cas par cas, recourir à ces situations-là de primes, que d'avoir une baisse généralisée de la TVA, parce que, un, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, parce qu'on n'arrive pas à cibler véritablement les ménages ou les individus qui en ont besoin, première chose. Et puis, deuxième chose, encore une fois, il faut aller trouver cet argent-là. Donc, où est-ce que vous le trouvez, Madame Le Pen, comme Emmanuel Macron l'a souligné ?
Alors, ça s'appelle Europa Voice, un autre podcast. L'Europe dans tout ça, parce que c'est quand même des positions un petit peu opposées, quand même, elles sont diamétralement opposées. C'est sur la vision de la relation avec l'Europe. Emmanuel Macron est pro-européen. Marine Le Pen, elle veut un État des nations au sein d'une Europe. Comment a été débattue l'Europe dans ce débat ?
Oui, c'est effectivement. Alors, pour moi, l'Europe, c'est un peu comme l'écologie, si vous voulez, Christophe, dans ce débat-là et dans cette séquence-là, sont des sujets qui n'ont pas eu peut-être toute la place qu'ils méritaient. Alors, on a peut-être une loupe déformante ici dans cette émission d'Europa Boys parce que c'est ce qui nous anime, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est quelque chose sur lequel les deux protagonistes ou même les candidats en général du premier tour ont insisté. Emmanuel Macron, il faut le dire là, peut-être. Faire un pas en arrière, de manière générale quand même, son bilan sur la scène internationale est beaucoup mieux perçu que son bilan sur la scène intérieure en France. Alors vous allez me dire, ce qui intéresse les Français, c'est ce qui se passe au quotidien, c'est le pouvoir d'achat, c'est leur première préoccupation, et c'est pas l'international ou c'est pas l'Europe. C'est vrai, mais encore une fois, son bilan est plutôt positif, et Marine Le Pen, c'est un des seuls moments où elle a reconnu les actions d'Emmanuel Macron, notamment par rapport à l'Ukraine. La grande nouveauté, pour moi, c'est finalement, même si c'est une bonne évolution, c'est l'instabilité de la position de Marine Le Pen par rapport à l'Europe, puisqu'elle a affirmé qu'elle ne voulait pas sortir de l'euro, alors que c'est une position complètement différente qu'elle avait encore il y a quelques mois de cela. Et donc, Emmanuel Macron... lui, évidemment, en a profité pour l'accuser, clairement, de vouloir quitter l'Union européenne sans le dire. Pour Emmanuel Macron, c'est l'idée d'une Europe plus forte, hein, plus intégrée. Donc, c'est un débat qu'on a eu souvent à Europa Voice. Hein, c'est comment est-ce qu'on approfondissait une Europe maintenant qui a été élargie à 28 moins un pays. Donc, c'est vraiment le cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Alors que pour Marine Le Pen, comme vous l'avez souligné Christophe, c'est comment est-ce qu'on a une Europe des nations, finalement, une Europe des États-nations, une alliance européenne des différentes nations. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en a profité aussi quelques fois par rapport aux arguments avancés par Marine Le Pen pour lui opposer le fait que certaines ne seront pas possibles tout simplement parce qu'ils se décident à l'échelle européenne et que ça ne peut pas être le fait d'un pays isolé. Donc on a eu finalement sur l'Europe, sur l'euro, quelque chose d'assez vague, assez macro, où on a eu deux oppositions de principe qui se défendaient, qui se combattaient, mais sans véritablement rentrer dans le fond et dans le détail des projets.
Absolument. Et on a encore un mot avant de conclure cette Europa Voice, allez voter. Donc renseignez-vous dans vos différentes capitales pour les différents bureaux de vote, donc n'hésitez pas à aller voter. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Qui sert autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous.
La musique qui nous vient de Suisse, vous aurez reconnu la voix de Stéphane Escher qui revient sur le devant de la scène après un énorme succès dans les années 90. Stéphane Escher qui s'était un petit peu éloigné donc, de la musique et qui revient avec un très bel album. Et cette chanson autour de ton cou, 13h44, courte pause et on parle de cinéma tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Audrey Diwan, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de votre film, The Happening, va rouvrir en Australie. Transportez-nous, France 1963, l'histoire de votre film.
Oui, j'ai voulu faire ce film comme une expérience physique. C'est ce que j'ai promis à Annie Arnaud quand nous nous sommes rencontrés. Quand elle écrit, elle essaie d'atteindre la justesse du souvenir. Évidemment, moi, je ne peux pas faire ça parce que je fais de la fiction, mais je lui ai promis d'essayer d'atteindre la vérité de l'instant. Comment on fait pour ne pas regarder cette jeune femme, mais tenter d'être elle? Quand je parle de ça, je veux dire tout au long de son chemin. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement un film sur l'avortement clandestin, c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme qui est d'abord un transfuge de classe, qui va d'une classe sociale à l'autre, qui essaie d'imposer ses désirs sexuels, qui en parle très ouvertement, son désir intellectuel et puis dans le fond d'atteindre la liberté.
Et vous n'avez pas choisi en fait les années 60 par hasard, parce que c'était un problème qui était aussi très présent auparavant, mais ça s'est vraiment amplifié dans les années 60 et c'était vraiment le mouvement de la libération entre guillemets de la femme, et on en parle beaucoup en fait dans ce film. C'est un des gros
sujets. La femme n'est pas encore libérée, hein, parce que la loi en France ne passe qu'en 1975, donc il a fallu
On l'a pas vu, mais j'ai mis les guillemets. Hein.
Oui, d'accord. Mais parce qu'il faut du temps pour que la loi change. Et vraiment, ce que je ressentais, la sensation de lire, quand j'ai découvert le livre, un genre de thriller intime, est liée au fait que tout le monde avait très peur à l'époque. La loi était dure, elle envoyait les gens en prison. Non seulement la jeune femme ou la femme qui essayait d'avorter, mais tous ceux qui, sur son chemin, étaient susceptibles de l'aider. Tout le monde risquait de finir en prison. Les médecins comme les professeurs risquaient une interdiction d'exercer. Enfin, voilà, j'ai ressenti cette espèce de peur sociale en fait qui traverse le récit.
Et pour vous, en tant que femme, c'est un sujet qui vous touche plus proche qu'un autre sujet. Est-ce que c'est vraiment une période qui vous a fait réfléchir, même si vous dites que c'est une fiction, c'est quand même très bien ancré dans l'histoire. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui vous tient à cœur en fait ?
En fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai lu le livre, je l'ai découvert après avoir avorté et j'avais envie de lire sur le sujet et j'ai mesuré l'immense différence qui existe entre l'avortement médicalisé et l'avortement clandestin. D'abord, j'ai réalisé à quel point je ne savais pas vraiment ce qu'était ce parcours d'avortement clandestin. J'avais des mots, mais des mots qui faisaient un peu comme des écrans derrière lesquels se cachait une réalité, la solitude, la dureté de ce parcours. Enfin, voilà. Je pensais pas du tout en faire un film. Hein. J'ai lu le livre pour réfléchir. Et pour moi, la différence majeure qui existe entre ces deux parcours, c'est que l'avortement médicalisé répond à une forme de routine. Il peut toujours se passer quelque chose, mais la routine existe. Alors que l'avortement clandestin, quand une femme emprunte cette voie-là, elle n'est plus soumise qu'au hasard. Qui elle va rencontrer ? Est-ce que ce sont des gens qui vont l'aider ou qui vont la dénoncer ? Est-ce qu'elle va finir à l'hôpital, en prison ? Est-ce qu'elle s'en sortira vivante ? Je veux dire, le suspense est dense et les questions sont fortes. Et voilà, et tout dépend du hasard. Et je trouve fou qu'on laisse tant de femmes se soumettre à ce seul hasard.
Et ce qui est intéressant de réfléchir aussi, c'est qu'il y a encore tellement d'endroits dans le monde où c'est le cas, même aux portes de l'Europe, voire même en Europe, il y a encore tellement d'endroits dans le monde où cette situation qui était dans les années 60 en France, elle est totalement réelle ailleurs.
Bien sûr, mais c'est pour ça que quand on m'a dit, parce que je me suis vue opposer cette idée, quand j'ai voulu faire le film, notamment les financiers, beaucoup m'ont dit « Mais pourquoi faire le film maintenant ? La loi est passée en France. » Alors déjà, c'est une réponse assez ethnocentrique parce que évidemment, on sait que si c'est le cas en France, que la loi est passée, déjà, ça peut rester difficile d'avorter même quand la loi passe. Mais aussi, on sait à quel point beaucoup de pays ou l'interdisent ou reviennent sur la loi. Alors après, évidemment, la question a été moins récurrente parce que malheureusement la Pologne a changé sa loi et la Pologne étant un pays européen, on a eu le sentiment que la question redevenait vive. Et quand j'étais en chemin pour aller à Venise, la loi a changé au Texas. Donc là, on a commencé à me dire l'inverse. Genre, est-ce que vous avez fait ce film parce que la question est très importante aujourd'hui et redevient vive dans tellement de pays? Malheureusement, l'avortement est toujours d'actualité quelque part dans le monde.
C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle L'événement, on va dire le nom en français, plutôt que de rester avec le nom en anglais, qui s'appelle Happening. C'est un livre qui, vous en avez parlé il y a quelques temps, ça vous a personnellement touché, mais ce n'est pas votre première adaptation, vous avez déjà travaillé sur des scripts d'adaptation. Est-ce que pour vous, je pense à HHHH par exemple, est-ce que pour vous, c'est une progression de pouvoir adapter un scénario, mais en tant que réalisatrice maintenant.
Alors, ce n'est pas comme ça que j'envisage. J'envisage plutôt le fait que ce soit un parcours intime. Moi, je mets, c'est un peu peut-être classique ce que je vais vous dire, mais je mets beaucoup de moi dans mes films et j'ai besoin que l'écho intime que j'y trouve soit fort. Donc, surtout quand on campe une expérience un peu viscérale, nécessairement, on convoque son propre corps, donc, et en écrivant et ensuite en réalisant. Et moi, j'ai besoin d'aller au plus loin de cette expérience pour avoir le sentiment de trouver une raison de faire les choses. Il y a beaucoup de films, vous savez, donc s'il n'y a pas une part d'inédit, beaucoup de films existent, moi je suis très cinéphile, s'il n'y a pas une part d'inédit, s'il n'y a pas un regard nouveau sur le monde qu'on propose, je pense qu'on n'a pas lieu de faire un film.
D'accord. Annie Ernaux, elle en a pensé quoi du film, après celle qui a écrit le livre ?
La pierre angulaire de notre relation de travail, c'était le mot juste. La veille du tournage, elle m'a envoyé une phrase de Tchekhov qui dit « Soyez juste, le reste viendra de surcroît ». Phrase qui a lourdement pesé sur mes épaules. Mais je lui avais promis d'essayer de ne jamais me laisser aller à l'artificiel ni à la provocation, mais vraiment de toujours essayer de cerner les émotions qui traversaient Anne de manière juste. Et donc, j'étais très impressionnée quand elle était dans la salle. D'ailleurs, moi-même, je ne suis arrivée qu'à la fin parce que je ne pouvais pas faire cette projection, là, sachant en train de regarder. Mais pour moi, c'était compliqué à deux endroits. C'est que non seulement j'adapte une de ses œuvres, mais je la confronte à un moment de sa vie. Et donc, je convoque des souvenirs qui sont des souvenirs forts et douloureux et un moment charnière de son existence. Et à la fin, elle s'est tue. À un moment, il y a eu un moment de silence. Et ensuite, elle m'a dit « Audrey, c'est juste ». Et là, j'ai su que j'avais atteint mon but. Mais ensuite, elle m'a écrit une très longue lettre, très belle, où elle disait notamment que personne n'aurait pu mieux qu'Anna Maria Bartolomé incarner la jeune femme qu'elle était à l'époque. Enfin, j'étais très contente de la lire. Elle dit aussi que, à l'instar de ce qu'elle a essayé de faire dans le livre, le film est une expérience vécue d'un bout à l'autre du corps.
D'accord. C'est fort comme phrase. C'est très, très fort comme phrase. Si on parle de Venise, donc vous avez dit tout à l'heure, vous étiez en chemin vers Venise quand les choses changeaient. Ouais. Est-ce qu'après Venise, les choses ont changé pour vous ? Parce qu'un Lion d'Or, c'est quand même quelque chose.
Ah oui, oui.
Autant le dire.
La chose qui a changé, c'est qu'on s'est vraiment battu pour faire le film avec mes producteurs. C'était un parcours. Le parcours du financement était difficile. Au regard du sujet, du fait que c'était seulement mon deuxième film et de mes envies, notamment au regard du cadre. Bon, on a toujours eu en tête qu'on espérait pouvoir montrer le film à un public vaste, mais on savait aussi que sûrement ce serait difficile. Ce que le Lion d'Or a changé, c'est que le lendemain du Lion d'Or, tous les pays ont acheté le film. Tous les pays où c'est possible, où il est possible de vendre un film, ont acheté le film. Donc, ça a mis énormément de lumière sur mon travail comme sur le sujet, sur tout ce que je vais de défendre à travers le film. Et ensuite, pour la suite, ça m'a donné beaucoup de liberté. Je sais que j'ai beaucoup plus de liberté de créer aujourd'hui. Et on sait que cette liberté n'est pas acquise pour toujours, mais au moins pour le prochain film, je sais que j'ai gagné ça.
Et au niveau des accolades du public français, comment le film a fonctionné ? Parce qu'on arrive dans une période qui est, on en parle à chaque fois, c'est le post-Covid, les gens ont une soif de culture, une soif de cinéma. Comment s'est passée la distribution du film en France ? Comment ça a été reçu et comment c'est reçu ?
Écoutez, ce qui est passionnant, c'est que les gens qui viennent voir le film sont ceux qui ont envie de vivre une expérience. C'est ceux qui ont envie de considérer que le cinéma peut les embarquer quelque part et de vivre au rythme d'une héroïne. Et c'était les débats après les films étaient passionnants et survoltés. Et beaucoup d'hommes sont venus me parler très spontanément du film. Beaucoup m'ont dit « on ne savait pas ». C'est une phrase qui revenait beaucoup. Donc, on découvert. Mais un peu comme moi, j'ai beaucoup découvert de choses en lisant le livre d'Annie Ernaux. Je ne dis pas que ça n'est lié qu'à la condition d'homme ou de femme et que ça se lit qu'à travers le genre, mais c'est vrai qu'ils étaient particulièrement émus de ressentir dans leur corps, et je trouve ça très beau en fait, de se dire que le cinéma permet ça, de vivre une expérience en rentrant dans le corps d'une jeune fille, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe. C'était très beau en fait. Et même quelles que soient nos convictions, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui étaient contre l'avortement et qui tout à coup se posaient d'autres questions après avoir vu le film, enfin, c'est passionnant.
Et pour vous pensez que, bon, la réponse est certainement oui, mais aujourd'hui les mentalités ont largement changé en France, en grande partie quand même dans l'opinion publique. On peut dire que ça a quand même beaucoup changé.
Les mentalités changent, mais beaucoup, beaucoup de choses restent à conquérir. Hein,
c'était un peu mon point, c'est qu'en fait on parle de la PMA pour tous, qui sont encore des combats très très forts et qui ont encore des fortes oppositions. Est-ce que pour vous, ça vous fait un peu mal quand même, au fond, de se dire on a changé des choses, mais on est quand même loin du compte ?
Moi, ça me fait pas mal. Je me dis qu'il faut se battre et que c'est le moment, en fait. J'ai l'impression qu'on est justement à ce moment charnière, assez passionnant, où les choses commencent à bouger et qu'il est temps et qu'il est l'heure. Vous savez, si on compte le nombre de femmes qui, dans le monde, ont laissé leur vie sur le chemin de l'avortement illégal, c'est une guerre. C'est une guerre qui a eu lieu de manière silencieuse. Il y a un nombre de corps, il y a un nombre d'histoires, c'est une guerre dont on a si peu parlé. Donc, évidemment, on a envie de résoudre les souffrances du monde, on a envie que des choses changent et qu'on ne soit pas obligé de conquérir la liberté à ce prix-là.
Ouais, je pense qu'on va finir là-dessus, parce que c'est une phrase qui est très très forte. Donc, en tout cas, merci de votre temps. Le film Happening ouvre. Le film Happening donc, ouvre à peu près partout à travers l'Australie. Merci.
Ravi aussi. Je vous souhaite une bonne journée.
Vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant.
Et c'était Je t'emmène au vent, chanson de Louise Attaque. Rendez-vous compte, une chanson qui a 25 ans cette année. Allez, 13h59 minutes. Retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité, le parti travailliste qui s'engage à débloquer 15 millions de dollars sur 3 ans pour les écoles de langue communautaire, donc les écoles de langue autre que l'anglais, et le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal qui a déclaré que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de notre programme. Prochain rendez-vous avec le français, c'est dimanche demain, donc à 13h. Et notre site internet sbs.com.au/french. Rendez-vous également sur notre Facebook, facebook.com/sbsfrench. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.